franceinter.fr.
Stimuler l'envie de faire un mouvement directement dans le cerveau, c'est une première chez le singe. Aujourd'hui, à la une de la science, toujours plus loin, donc dans la compréhension du cerveau, des chercheurs de l'université américaine de Rochester publient aujourd'hui cette drôle d'expérience. Après une période d'apprentissage, ils sont parvenus à déclencher artificiellement l'envie de faire certains mouvements à l'aide de petites électrodes placées dans le cerveau du macaque rhésus. On discute de ce travail qui paraît dans la revue Neurones avec notre invité Axel.
Oui, nous sommes au téléphone avec Karim Benchenan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, neurobiologiste à l'ESPCI, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Alors, la publication s'intitule « Injecter des instructions dans le cortex prémoteur ». Qu'est-ce que ça veut dire « injecter des instructions » ? Ça fait presque, peur.
C'est un peu souvent le cas en science. Ce qu'on veut dire par « injecter des instructions », scientifiquement, n'est pas la même chose que ce que le commun des mortels entend quand on prononce les mêmes mots. En fait, ce qui a été montré dans cette étude, c'est que des stimulations directement dans le cortex du primate pouvaient être utilisées, donc étaient perçues par le primate pour réaliser, pour résoudre la tâche qu'on lui demandait de réaliser. Donc c'est pas des instructions dans le sens où on n'arrive pas à comprendre le code implanté dans le cerveau, la façon dont on parle le cerveau, mais on s'est injecté des stimulus qui sont perçus consciemment pour réaliser une tâche.
Expliquez-nous un petit peu l'expérience alors en détail.
L'expérience est la suite de résultats qui avaient été obtenus notamment par Angela Sirigu à Lyon, où cette fois chez l'homme, ils avaient réussi à stimuler dans certaines parties du cerveau, et en fait, ils pouvaient effectivement déclencher des intentions de faire des mouvements. Et on le sait parce que c'était fait chez l'homme, et que les sujets déclaraient avoir l'intention de bouger la main, alors que la main ne bougeait pas. Et il y avait d'autres stimulations, notamment dans le cortex prémoteur, qui est la région dans laquelle les chercheurs de Rochester ont stimulé, où en fait, la stimulation chez l'homme déclenchait des mouvements, mais le sujet n'était pas conscient d'avoir bougé. C'est-à-dire qu'on voyait, on faisait la stimulation, la main bougeait, et si on demandait au sujet, il disait « non, ma main n'a pas bougé ». Et donc ça a posé des grosses questions par rapport aux intentions, par rapport à la volonté de faire des mouvements. Et la grosse question, c'est est-ce que dans le prémoteur, on est conscient du mouvement ou pas ? D'où la question de la poser chez l'animal où on a beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on fait. Et la question, c'est comment détecter les intentions chez l'animal ou comment savoir si l'animal perçoit une stimulation électrique dans son cerveau.
Mais finalement, quel est le bon terme à utiliser ? Est-ce qu'ils ont stimulé l'envie, l'intention, le besoin de faire un mouvement ? On sait quoi répondre à cette question ?
Alors, on ne sait pas parce qu'on n'a pas accès à l'univers des représentations de l'animal ou des intentions. Ce que les auteurs ont fait, c'est ils ont fait une tâche où, pour simplifier un peu, pour que ce soit plus simple, on a un écran. Et quand il y a une lumière en haut à droite, on doit tirer sur un levier rouge. Et s'il y a une lumière en haut à gauche, on doit tirer sur une corde à droite. Mmh. D'accord ? Mmh. Et en même temps qu'ils allumaient les lumières à droite ou à gauche, donc si le singe faisait la bonne tâche, il avait une récompense, et en même temps, ils ont commencé à faire des stimulations dans le cortex prémoteur. Donc à chaque fois qu'il y avait la lumière rouge, il y avait une stimulation à un endroit du cortex prémoteur, et puis à chaque fois qu'il y avait la lumière de l'autre côté, il y avait une stimulation à un autre endroit. Et puis petit à petit, ils ont diminué la lumière sur l'écran, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière du tout, et que la seule chose que le singe recevait, c'était la stimulation dans le cortex. Et en fait, le singe continuait à faire la tâche exactement de la même façon. C'est-à-dire que le singe était capable de percevoir la stimulation dans son cortex. Et ça a été très très important parce que jusqu'à présent, en fait, on savait dès les années 50 qu'on pouvait faire des stimulations dans le cortex et ça pouvait être perçu par des sujets humains. Ça avait été fait dans les années 50 par Penfield à McGill au Canada. Et en fait, c'est comme ça qu'on avait fait des cartes du cerveau où on savait qu'il y avait des parties du cerveau qui faisaient du sensoriel. C'est-à-dire que si on stimulait dans cette partie du cerveau, ça nous donnait l'impression de sentir comme si on touchait quelque chose, et d'autres parties du cerveau qui agissaient comme un contrôle moteur, c'est-à-dire que si on faisait des stimulations à un endroit, on bougeait le doigt, si on stimulait juste à côté, on bougeait le bras, etc. Et en fait, on arrive à bien comprendre ce qui se passe pour tout ce qui est sensoriel, donc la perception, c'est-à-dire que des sujets ne sont pas capables de faire la différence entre une stimulation dans le cortex visuel, quasiment, et une stimulation visuelle réelle et une stimulation dans le cortex visuel. Mais par contre, on n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait en dehors de ces structures primaires, soit motrices, soit sensorielles. Et c'est ce qu'ont réalisé les auteurs de cette étude. Ils ont stimulé dans une structure prémotrice. Donc, où chez l'homme, encore une fois, les sujets sont capables soit d'avoir des intentions, enfin, de faire des mouvements sans les percevoir consciemment. Et là, en fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est que le singe était capable de percevoir la stimulation dans ce cortex pour réaliser une action.
Alors ça, ces stimulations, Karim Benchenan, elles sont rendues possibles par les électrodes qui ont été posées dans le cerveau du macaque?
Exactement. Exactement, c'est des stimulations intracorticales très précises.
Et c'est des stimulations qu'on pourrait faire facilement sur des humains, par exemple ?
Ah bah c'est déjà fait chez l'homme, et ça a été fait chez l'homme encore une fois en 2009 par l'équipe d'Angela Sirigu. Et c'est elle qui a pu montrer que, par exemple, on stimulait la place, le sujet faisait un mouvement, mais il le sentait pas. Il disait « non, j'ai pas bougé ». Et ça, par exemple, c'est très difficile à faire chez le singe, parce qu'il ne peut pas répondre « non, j'ai pas bougé ». Mais avec le singe, là, ce qui a été montré, c'était la seule façon de résoudre correctement la tâche pour le singe, c'est de sentir la stimulation électrique. Et là, on peut montrer que, oui, il est capable de percevoir une stimulation électrique à différents endroits de ce cortex, ce qui fait qu'on peut utiliser ce cortex pour dialoguer avec le singe.
Est-ce qu'on peut déjà imaginer des applications de ce dialogue avec le cerveau ?
Bah c'est déjà énormément de choses qui sont déjà réalisées pour, par exemple, donner, restaurer les mouvements chez des patients complètement paralysés. Et en gros, c'est utilisé, donc on peut manipuler des bras robotisés en décodant l'activité dans le cortex moteur. Et puis, on peut réinjecter la sensation. Par exemple, quand le bras robotisé touche la table, on va réinjecter cette sensation en stimulant dans le cortex sensoriel. Mais jusqu'à présent, en fait, ce qui était montré, c'est qu'on utilisait soit le cortex moteur primaire, soit le cortex sensoriel primaire. Et si par exemple il y a un sujet qui est paralysé en partie parce qu'il y a des traumas dans les structures, soit motrices primaires, soit sensorielles primaires, jusqu'à présent on disait on peut rien faire parce que dans le reste du cerveau, les sujets ne perçoivent pas consciemment l'activité dans le reste du cerveau. Or là, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont montré que même dans une autre partie du cerveau, le cortex prémoteur, les sujets, enfin les singes en l'occurrence, étaient capables de percevoir cette activité.
Est-ce qu'un jour on arrivera à injecter directement un savoir ou une mémoire dans un cerveau ?
En fait, c'est un peu tout le problème, où parfois, quand on n'est pas spécialiste du domaine, on a du mal à percevoir la complexité. C'est-à-dire qu'on est capable de décoder l'activité quand on bouge le bras, par exemple, et on est capable de faire contrôler un bras robotisé à un singe ou à un sujet humain. C'est quelque chose qu'on arrive déjà à faire. On peut rajouter une modalité sensorielle à un rat, par exemple, on a rajouté la vision en infrarouge à un rongeur. Et ça, techniquement, c'est pas très 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 difficile. C'est-à-dire que, ça devient technique, c'est un travail d'ingénieur, les choses, il y a énormément de recherche. Mais, en gros, on arrive à stimuler des parties du cerveau, et en fait, c'est le cerveau qui arrive à donner du sens à cette stimulation. Mais par contre, on n'arrive pas à comprendre comment le cerveau parle lui-même. C'est un peu comme si on a une personne qui parle anglais et une personne qui parle français, ils ne se comprennent pas, mais avec les mains, en fait, ils arrivent à trouver un langage commun. Donc ce qu'on arrive à bien faire, c'est trouver un langage commun qui peut être utilisé par l'ordinateur. Et
On termine, Karim Benchenan, s'il vous plaît, on arrive à la fin.
Voilà, donc on arrive à trouver un langage commun, mais on n'arrive pas à comprendre la langue du cerveau encore.
Merci beaucoup Karim Benchenan, neurobiologiste, autour de cette expérience qui a fait l'objet d'une publication donc dans la revue Neurones du groupe Cell. Merci beaucoup à vous et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, une avancée importante dans la lutte contre le virus Ebola. Une équipe d'épidémiologistes de l'Université de Californie a étudié les réponses immunitaires de 14 survivants d'une épidémie survenue il y a 40 ans dans un petit village de la République démocratique du Congo, âgés de 55 à 86 ans. Les victimes étaient toujours capables de produire des anticorps susceptibles de lutter contre trois différentes versions du virus. Quatre d'entre eux étaient même en mesure de neutraliser totalement le virus. Ces résultats apportent beaucoup d'espoir aux quelques 14 000 survivants des dernières épidémies entre 2013 et 2016. espèces en Afrique de l'Ouest qui ne connaissent pas encore les effets à long terme. Des manchots géants en Nouvelle-Zélande, des chercheurs ont retrouvé le squelette d'une nouvelle espèce de manchot préhistorique beaucoup plus grande que ses cousins actuels en se basant sur la taille de son fémur. Ils estiment qu'il mesurait 1m77, soit 50 cm de plus que les grands manchots empereurs et qu'il devait mesurer peser environ 100 kg, vivant il y a plus de 55 millions d'années, juste après l'extinction des dinosaures. Les chercheurs essayent toujours de comprendre l'origine du rétrécissement des manchots. Ils remarquent que la disparition de cette nouvelle espèce coïncide avec l'essor des phoques et des baleines à dents. Et puis imaginez si vous pouviez lire à la lumière de votre ficus, une idée pas si farfelue pour les chercheurs du MIT. En injectant à l'aide de nanoparticules trois composés chimiques dans les feuilles de plantes qui sont utilisées dans le mécanisme de bioluminescence des lucioles, ils sont parvenus à faire briller du cresson pendant 3h30. La lumière émise par un plan de 10 cm est pour l'instant 1000 fois plus faible que celle nécessaire pour lire. Mais les chercheurs restent confiants et espèrent même pouvoir utiliser un jour des arbres comme lampadaires. Cette méthode peut être utilisée sur n'importe quelle plante et semble bien plus efficace. Vous pouvez retrouver une vidéo de cette expérience sur la page Facebook de l'émission.